Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les Gilets jaunes n'ont-ils plus rien à dire ? Ils étaient 280 000 le 17 novembre dernier, plus que 7 000 avant-hier. En 7 mois, la mobilisation des Gilets jaunes a été divisée par 40. Chaque samedi enregistre désormais une moindre participation par rapport au précédent. Est-ce à dire pour autant que cette mobilisation d'une ampleur et d'une durée inédite appartient au passé ? Les résultats des européennes le laissent penser. Les listes qui affichaient leur appartenance aux Gilets jaunes n'ont pas dépassé les 1% des suffrages, signe, selon certains observateurs, d'un décalage entre la médiatisation de ce mouvement et la réalité de son ancrage. Il serait pourtant périlleux de détourner trop vite le regard, tant ce mouvement a imprégné l'actualité politique et sociale de ces derniers mois. À son apogée, le soutien aux Gilets jaunes était très largement majoritaire dans l'opinion. Il a obligé le pouvoir exécutif à réagir, sur le fond et sur la forme. Quant à la participation aux actions, manif du samedi, occupation des ronds-points, elle a transformé celles et ceux qui y ont participé et qui continuent autrement à se mobiliser. Alors les Gilets jaunes n'ont-ils plus rien à dire ? C'est le thème de la discussion de ce soir en compagnie de trois invités. Magali Della Souda, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue chargée de recherche au CNRS. Vous travaillez au centre Émile Durkheim à Sciences Po Bordeaux. Et vous êtes à l'initiative, vous n'êtes pas seule, mais d'une grande enquête sur les gilets jaunes qui occupe aujourd'hui environ 70 chercheurs. Pour discuter avec vous, un autre chercheur, Olivier Filleul, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur à l'université de Lausanne, spécialiste des mouvements sociaux. Vous menez une enquête depuis plusieurs mois auprès de Gilets jaunes dans le département du Var. Vous avez notamment publié avec Daniel Tartakovsky aux presses de Sciences Po La Manifestation, ouvrage dont la dernière édition date de 2013. Et puis notre troisième invité, Aline Leclerc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au journal Le Monde, reporter sur les questions économiques et sociales. Et vous suivez ce mouvement des Gilets jaunes depuis le début, que ce soit à Paris ou en région. Et quand on suit ce mouvement des Gilets jaunes, ça fait déjà quelques semaines que ça dure, on regarde essentiellement ce qui se passe le samedi, en termes notamment de mobilisation. Est-ce que pour vous, les chiffres qui sont ceux que l'on connaît aujourd'hui, donc 7000 manifestants, ça c'est les chiffres officiels, on va dire, du côté du ministère de l'Intérieur sur toute la France. Est-ce que pour vous, c'est un bon indicateur pour savoir où en est ce mouvement aujourd'hui ?
Alors, ça a toujours été compliqué, les chiffres, depuis le début. D'ailleurs, c'est un des désaccords fondamentaux entre les Gilets jaunes et les journalistes, hein, puisque les médias ont repris massivement les chiffres du ministère de l'Intérieur depuis le début, et du coup, ça a été extrêmement contesté par les Gilets jaunes. Moi, mon indicateur, ce sont les Gilets jaunes eux-mêmes. C'est-à-dire que pendant des mois, quand je les appelais, ils me disaient « c'est faux, ça réduit pas, on est toujours mobilisés ». On est toujours à fond. Moi, il y a un certain nombre de gens que je suis dans ce mouvement. Donc, ils me disaient, toujours là, toujours mobilisés. Et quand j'ai voulu, pour les 6 mois, en fait, je m'étais dit, tiens, je vais faire un peu des portraits des irréductibles, de ces gens que j'ai rencontrés tôt, que je sais. Et en fait, j'étais tout de suite marquée par les premiers signes de découragement. Et aujourd'hui, je pense que les Gilets jaunes sont eux-mêmes, reconnaissent eux-mêmes qu'il y a une baisse de mobilisation, alors qu'ils expliquent par différentes, façons, y compris les gens les plus médiatisés, Éric Drouet et autres, disent qu'ils ne croient plus dans la manifestation. Donc le mouvement, comme on le connaissait jusqu'ici, dans les manifestations du samedi, à mon avis, marque une pause, hein, disons. Enfin voilà, les gens le reconnaissent. Après, ils espèrent toujours qu'il y ait un rebond. Donc, par exemple, là pour samedi, ils espèrent qu'il y ait peut-être un rebond, mais plus par des manifestations, mais peut-être par des petits blocages de tous les côtés. Voilà, mais eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont quand même moins nombreux aujourd'hui.
Olivier Filleul, comment est-ce que vous qualifieriez, vous, l'état du mouvement aujourd'hui ? C'est un mouvement qui est sur le déclin, qui fait une pause, qui se transforme avec d'autres manières de se mobiliser, autres que la manifestation ?
Alors, je partage entièrement le constat qui a été fait. Il me semble qu'effectivement, moi je l'observe au niveau du Var, donc j'ai pas de vision nationale, et on le sait tous, on va sans doute en reparler, il y a des différences régionales, locales, qui sont extrêmement importantes et qui déterminent la composition du mouvement et donc la manière dont il peut se décomposer éventuellement. Mais en tout cas, pour ce que j'ai observé, il y a effectivement un reflux qui est lié à de multiples causes de toute nature. Il y a sur les ronds-points dans les cabanes, il y a eu tout un tas partout, j'imagine, autant que je puisse le savoir. Il y a eu des conflits entre personnes, ce qui est bien légitime puisque est bien normal puisque c'est des personnes qui se sont rassemblées non pas sur des affinités antérieures, donc évidemment qu'à partir d'un certain moment il y a des clivages qui sont apparus, de différences de personnalité, etc. Mais il y a aussi une fatigue qui est liée au sentiment sans doute légitime et juste que la manifestation n'est plus désormais un moyen efficace de protester et d'obtenir des choses. Et puis il y a aussi, je crois et surtout, l'effet de la répression. Et la répression, elle a pris deux formes. On a peu insisté sur la deuxième forme. On a beaucoup parlé de la répression policière, pour prendre l'expression consacrée. Mais la répression judiciaire est sans doute celle qui, aujourd'hui, a provoqué un retrait relativement massif des Gilets jaunes dans les manifestations. Parce que la répression judiciaire, c'est donc les amendes, hein, c'est les gardes à vue, c'est toutes les peines qui tombent comme à Gravelotte sur les Gilets jaunes et qui ont des effets très concrets sur la vie quotidienne de personnes qui sont, pour une bonne part, on le sait, déjà fragilisées.
Magali Della Souda, est-ce que vous partagez les mêmes observations? Est-ce que dans les explications par rapport à ce déclin du mouvement en termes de mobilisation, il n'y a pas aussi le fait que peut-être que certains ont le sentiment d'avoir obtenu en partie satisfaction?
Alors, je partage complètement ce qu'ont dit Aline Leclerc et Olivier Filleul, effectivement. Et j'ajouterais autre chose. Alors, pour ceux que j'ai rencontrés, moi, de personnes de Gilets jaunes, il n'y a pas tellement cette sensation d'avoir obtenu satisfaction. En revanche, il y a plutôt l'idée qu'il va falloir inventer de nouvelles formes de mobilisation. Et dans ce que j'observe au niveau de la Gironde, ces nouvelles formes de mobilisation, elles viennent effectivement suite à la répression. Alors, il y a aussi tout ce qui est intimidation. Hein. Quand vous êtes dans un petit village, vous ne pouvez pas faire la réunion parce que le patron du bar est inquiété par monsieur le maire et la gendarmerie. Voilà, c'est aussi ce genre de choses-là hein, qu'on a dans le périurbain ou dans le rural. Il y a ça. Et puis, il y a eu, voilà, à un moment, la volonté de certains de développer d'autres formes d'action. Donc, il y a des associations qui ont été créées. Il y a, en Gironde, des marchés de producteurs, la mise en culture de terre avec du bio et du local pour construire une agriculture ensemble, avoir ce projet-là ensemble. Et donc ça, l'avenir nous dira hein, ce qu'il advient de ce mouvement.
Mais c'est peut-être d'ailleurs intéressant de préciser quel est le périmètre de votre observation. Alors vous n'êtes pas seul, hein, je le disais, Magali Della Souda, vous êtes 70, c'est-à-dire que vous faites comment? Vous vous répartissez entre sociologues, anthropologues, ethnologues, des territoires que vous observez et des gilets jaunes avec qui vous conversez? Comment ça se passe?
Oui, ben, en fait, l'enquête, elle est un petit peu à l'image du mouvement, donc elle est très provinciale. Et on se répartit par lieu de vie et de travail, donc voilà, sur les sites. Alors ça tombe bien pour Bordeaux, puisqu'on est une grosse équipe à Bordeaux et la Gironde est un lieu de mobilisation important, mais on a des collègues dans l'Oise, on a des collègues géographes en Normandie qui font un travail assez remarquable, et puis on a voilà, une spécialisation territoriale, une spécialisation par méthode aussi, et puis une spécialisation par thème. Donc on a un groupe qui va travailler sur femmes, genre et gilets jaunes, un groupe qui va travailler sur l'écologie. Laurent Mucchielli qui travaille sur le traitement judiciaire dont vient de parler Olivier et qui est effectivement un point important. On a aussi voilà, des gens qui travaillent en Corse avec des spécificités locales. Et on se coordonne avec des outils de communication, notamment par Internet, comme les Gilets jaunes, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de se rencontrer physiquement.
Olivier Filleul, les Gilets jaunes avec lesquels vous travaillez ou sur lesquels vous travaillez, vous allez les trouver où aujourd'hui? S'ils sont moins présents dans les manifestations, s'ils commencent un peu à déserter les ronds-points, c'est quoi? Ce sont toujours les mêmes, en fait, que vous suivez depuis le début, ou ça change?
Non, alors ça fait à peu près 3 mois, donc c'est assez récent. Donc je suis arrivé sur ce terrain, c'était déjà bien emmanché d'une certaine manière, et beaucoup de gens étaient déjà partis parce qu'il y a eu un flux continu hein, d'aller-retour aussi pour certains. Donc moi, ma stratégie a consisté par boule de neige à constituer une sorte d'échantillon significatif, évidemment pas représentatif, des Gilets jaunes du Var, en me rendant sur les ronds-points, en trouvant des personnes ressources qui me donnent des contacts. Et donc je suis en train de constituer, on va dire, une sorte de base de données, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, de noms, de personnes qui sont d'accord de répondre à l'enquête. sachant que je leur dis d'entrée de jeu que l'enquête, elle va durer jusqu'en 2022. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est certes le mouvement tel qu'il s'est développé, ses causes, etc., mais je focalise mon attention sur le devenir des personnes qui ont participé au mouvement.
2022, parce que c'est la prochaine présidentielle ?
Oui, c'est-à-dire que mon idée, c'est de suivre les personnes à la suite de plusieurs élections, de voir ce que le mouvement leur a fait en termes de socialisation, et donc, il faut bien s'arrêter un moment, j'ai choisi 2022. Ça continuera peut-être. Et donc, du coup, ça veut dire que les personnes que je contacte, je garde un contact avec elles. Et puis j'ai une autre stratégie pour retrouver tous ceux qui étaient déjà partis lorsque je suis arrivé, et dont parfois on me parle, parfois pas, à cause des fâcheries, c'est en faisant une analyse de Facebook, et donc des personnes qui sont intervenues sur les différentes pages Facebook. Alors, on va pas rentrer dans l'état, c'est très compliqué, parce qu'il faut en gros casser l'algorithme pour pouvoir rentrer et pouvoir analyser les données et les récupérer. Mais depuis une semaine, ça marche. Donc on est en train, effectivement, de pouvoir retrouver toutes les personnes qui sont intervenues sur les sites du Var. Il y en a 8, les sites Facebook, les pages Facebook, pardon, les groupes Facebook, je vais y arriver. Voilà, donc c'est par cette stratégie que je constitue mon échantillon.
Votre stratégie à vous, Aline Leclerc, alors j'ai vu que depuis le début du mouvement, vous avez beaucoup publié sur les Gilets jaunes, vous êtes pas mal déplacé. Est-ce que l'idée c'était de choisir à chaque fois des endroits qui vous semblaient significatifs et représentatifs de ce qu'est ce mouvement? Parce que la représentativité, elle est très compliquée, on va évidemment y revenir, mais pour voir en quoi peut-être il y a eu des erreurs ou des biais d'interprétation dans ce qu'a été ce mouvement. Enfin, j'en parle au passé, il est encore en cours, mais...
C'était mon principal souci, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé face à quelque chose que personnellement je n'avais jamais vécu, mais je crois que pour avoir interrogé des chercheurs assez tôt dans le mouvement, finalement on était tous un peu perdus, c'est-à-dire voilà, vous avez quelque chose d'assez massif qui arrive en face de vous et qui ne répond pas au code habituel. Hein, les gens, on l'a bien vu, les médias avaient besoin de leaders, on voulait des gens qui puissent être porte-parole, réagir rapidement à des annonces, etc. Or ce mouvement n'est pas ça. Donc pour moi, la seule façon de comprendre ce qu'est ce mouvement et de pas faire d'erreur d'interprétation, c'est d'aller voir énormément de personnes. Et j'ai eu la chance, moi, en fait, une semaine avant le 17 novembre, donc le 10 novembre, il y avait une réunion de préparation sur un supermarché Leroy Merlin en Seine-et-Marne, où donc il y avait Éric Drouet et Priscilla Ludowski qui vont s'avérer être figures médiatiques, mais il y avait surtout une quarantaine de gilets jaunes qui étaient là. Et c'est en entendant, en fait, leur discussion, c'est-à-dire plutôt que d'aller avec moi mon prisme de questions justement, mais en écoutant ce qu'ils se disaient et quelles étaient leurs échanges, quelles étaient leurs interrogations, quels étaient les mots qui venaient et qui étaient abolition des privilèges, qui étaient l'objectif c'est l'Élysée, etc., que j'ai eu la chance de pas trop me tromper en fait dans le cheminement au sein de ce mouvement. Et évidemment, il était nécessaire après non seulement d'aller dans les manifestations, parce que ces moments-là, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des actes. Et je pense que un certain nombre de choses se sont révélées dans les actes, justement dans ces manifestations. Et d'aller voir aussi dans différentes régions de France, parce qu'on sait bien que ce soit politiquement, que ce soit culturellement, voilà, les gens réagissent pas de la même façon. C'est très important. Mais oui. Si je puis me permettre, je pense que ce qui est important, c'est vrai que très souvent, moi, en ce moment, on me demande « est-ce que c'est la fin ?» C'est une question qui revient tout le temps. Et selon moi, c'est pas la bonne question. C'est-à-dire, la question, est-ce que c'est la fin? La question, elle est peut-être déjà de quoi sont-ils révélateurs? Qu'est-ce qu'ils nous ont appris sur l'état de la société française? Et puis, quelle va être la longueur d'onde du mouvement? Hein, parce que voilà, il s'est passé quelque chose. Je veux dire, on peut dire que les médias ont surévalué ce mouvement, on peut dire plein de choses, mais il s'est passé quelque chose, on le voit bien. Je veux dire, les gilets jaunes sont dans toutes les conversations, ils sont dans tous les débats politiques, ils ont passionné les chercheurs, ils ont passionné...
Enfin, dans tous les débats politiques, on les a pas tant entendu que ça, que ce soit directement ou indirectement, dans le dernier grand débat politique qu'ont été les élections européennes. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression que, justement, ça faisait partie des thématiques importantes de ce débat.
Vous voulez dire que la question des gilets jaunes est occupée les paroles des politiques ou que les gilets jaunes...
Elle occupait le grand débat national, mais une fois que le grand débat national a été acté, la campagne des européennes, me semble-t-il, elle s'est déroulée comme n'importe quelle campagne. Enfin, je ne sais pas si c'est également votre avis, Magali Della Souda.
Mais complètement, et je rejoins ce que vous aviez écrit, je crois, en avril, là-dessus. C'est vrai que les européennes, d'une manière générale, quand on... Alors, il faut... prendre nos questionnaires avec beaucoup de prudence, bien sûr. Hein. Olivier parlait d'échantillons significatifs, pas représentatifs. Je crois qu'il faut faire attention. Mais l'Europe était un non-sujet pour les personnes qu'on interrogeait. Près de 25% d'entre eux n'avaient jamais voté. Ce scrutin-là, c'est pas un scrutin très mobilisateur. Et donc, il y avait déjà une forte mise à distance. Donc, du côté des Gilets jaunes, le résultat des élections n'est pas une grande surprise.
Est-ce que ça a changé quelque chose, en tout cas, en termes de... Est-ce que vous pouvez le voir dans les travaux que vous effectuez les uns et les autres, en termes de politisation, justement, de ces personnes? Alors, j'ai lu qu'il y avait un certain nombre... Alors, c'était notamment le résultat des premiers échantillons sur lesquels vous avez travaillé, Magali de la Souda, qu'il y avait quasiment la moitié pour qui c'était la première fois qu'ils manifestaient ou qu'ils participaient, en tout cas, à une action de cet ordre-là. Est-ce qu'il y a eu une forme d'initiation à la politique? Et si oui, est-ce que ça s'est retrouvé justement dans ce rendez-vous politique que sont les élections?
Alors moi, je serais prudente, hein, puisque l'enquête est en cours et on a les questionnaires, mais on a l'enquête qualitative qui va s'échelonner sur plusieurs mois et peut-être plusieurs années, on ne sait pas encore, hein, ça dépendra des financements, mais... On a des indices forts d'une politisation au sens où des individus qui jusqu'alors ne s'intéressaient pas à la chose politique, au sens très large du terme, ont commencé à s'y intéresser. Et pas seulement à des questions partisanes ou de gouvernement, mais aux formes que se donnent les citoyens pour s'administrer, pour décider ensemble de comment ils ont envie de vivre ensemble. Et les débats, les réunions locales qu'il y a eu, notamment sur le RIC, qui ont été mises à l'agenda des Gilets jaunes à partir du mois de décembre, c'est quelque chose, pour moi, de très important. Maintenant, il faut voir dans la durée, effectivement, ce que ça va donner. Et le fait que certains qui n'avaient jamais eu d'engagement montent des associations, et on verra ce que ça va donner pour les municipales, d'ailleurs. Ces associations qui vont structurer dans des endroits où il n'y avait plus de vie sociale et politique, des réseaux... Peut-être que ça va être une des manifestations, une des conséquences, une des objectivations de cette forme de politisation. Mais je suis très prudente et je pense qu'il faut faire très attention aux configurations locales. Parce que ce que je vois en Gironde n'est pas forcément ce qu'on va voir à Rouen ou ce que voit un autre collègue en Isère ou à Montpellier.
Olivier Filliol.
Oui, alors sur l'absence de politisation antérieure au mouvement, c'est vrai que c'est assez frappant. Nous, ce qu'on fait, je dis nous parce qu'on est deux en fait, on fait des calendriers de vie, donc on demande aux gens on essaie de mettre en chiffres, si vous voulez, l'ensemble du parcours de vie de la personne. Et donc il y a tout un volet de ces calendriers de vie qui portent sur les engagements politiques antérieurs de toute nature. Hein. C'est pas le vote, on ne s'y intéresse pas. Pour en revenir là-dessus, mais sur les engagements politiques, les engagements associatifs. Et on a une population qui, très largement, était à côté, vraiment à côté de toutes les activités politiques, même entendues au sens le plus large. Et pour aller dans le sens de ce qui a été dit, on observe, alors vraiment de manière massive, une politisation très forte, mais qu'il faut un peu, il faut un peu creuser. Je pense que, classiquement, on distingue en sciences politiques la compétence politique et l'intérêt pour la politique. Pour aller vite. L'intérêt pour la politique a explosé. On a des gens qui, auparavant, je travaille sur le Var parce que ma mère vit dans le Var et que donc j'ai des connexions avec des gens depuis fort longtemps. Donc il y a des gens que je connais depuis longtemps et dont je vois bien qu'ils ne se sont jamais intéressés à la politique, alors qu'aujourd'hui, ils s'y intéressent beaucoup et ils ont vraiment un goût pour la politique, une appétence pour la politique. Ce qui fait que, pour répondre à votre question, au moment de la campagne des européennes, il y a eu une très forte mobilisation dans le Var, avec distribution de tracts un peu partout, etc., pour dire aux gens, allez voter, il faut voter, etc. Donc là, on est vraiment sur une politisation très claire. En revanche, sur la question de la compétence, la capacité à bien distinguer les enjeux politiques, à distinguer les positionnements politiques des différents partis politiques, etc., là, comment dire, c'est moins impressionnant. Comme progrès, parce que ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage, et c'est vrai qu'on a aujourd'hui ce qui est assez explosif, je trouve, c'est pour ça que le mouvement est loin d'être fini à mon avis. On a une coexistence, en tout cas chez les enquêtés que j'observe, d'un fort intérêt pour la politique, d'une totale perte de naïveté par rapport aux discours convenus, etc. Donc ils ont confiance en rien, et en même temps une relative, disons, difficulté à se positionner politiquement, à faire la distinction entre les différents problèmes politiques qui se posent. Et donc c'est explosif. Pourquoi ? Parce que on a aucun moyen de prédire ou même de sentir où ça peut aller. puisque il y a cette difficulté, si vous voulez, à penser politiquement les problèmes qui se posent.
C'est une difficulté, alors justement, ouais. C'est la question que je voulais poser, c'est une difficulté à penser les problèmes et peut-être aussi à se positionner politiquement, ou est-ce que c'est pas aussi le signe d'une forte hétérogénéité de ce mouvement? C'est ce qui a beaucoup été dit justement à propos des Gilets jaunes, c'est-à-dire la difficulté à dire si c'était plutôt un mouvement de gauche, plutôt un mouvement de droite, voire de droite, voire d'extrême droite, c'est-à-dire selon la façon dont se déroulaient les mobilisations. On avait beaucoup de mal justement à encadrer, à qualifier ce mouvement, Aline Leclerc.
Alors, je pense que ce qui est important, c'est par exemple sur les européennes, penser que les Gilets... Enfin, il y a une erreur d'interprétation. J'ai lu, les gens disaient, regardez le score des Gilets jaunes, c'est vraiment ridicule. Les médias se sont emballés sur ce mouvement. Mais en fait, c'est une erreur d'interprétation importante. Parce que moi, la plupart des Gilets jaunes que j'ai vus, je l'ai écrit, n'avaient aucune intention d'aller voter pour ces Gilets jaunes. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a surprise, c'était que quand j'étais à Rouen, j'étais à Saint-Étienne-de-Rouvray, sur le rond-point des Vaches, qui est un rond-point très mobilisé, le soir des résultats, ce qui est intéressant, c'est que les gens n'étaient pas sûrs, ne savaient pas vraiment en fait ce qu'avaient voté les autres. C'est-à-dire, ce qui était sûr pour eux, c'était qu'ils avaient été votés. Que d'ailleurs, la seule chose dont ils étaient sûrs, c'est qu'ils se créditaient le petit regain de participation qu'ils avaient eu, parce qu'ils avaient fait un effort important pour aller autour d'eux mobiliser des gens, refaire des cartes d'électeurs à des gens qui n'avaient plus voté, etc. Mais qu'avaient voté les gens qui étaient avec eux autour du rond-point depuis le début, eh ben j'ai été surprise de voir qu'ils ne le savaient pas en fait.
Mais c'était quoi ? C'était une forme d'autocensure, c'est-à-dire pour ne pas peut-être briser l'unité des mobilisations, préfère ne pas savoir ce que...
C'est vrai qu'il y a quelque chose de fort dans ce moment et qui... moi, en 2016-2017, on a fait un projet au journal Le Monde, qui était un projet de reportage sur la société française. Et figurez-vous que j'ai relu récemment la conclusion qu'on en avait faite. Et j'avais écrit, les gens en ont marre de la politique politicienne, la droite, la gauche, etc. Et ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose, moi, que j'ai eu l'impression de retrouver sur les ronds-points. C'est-à-dire, ils disent souvent, ce bonheur de se retrouver ensemble, y compris avec des gens avec qui on ne parlait plus parce qu'on se savait opposés politiquement, mais avec qui, finalement, on a un assez grand nombre de choses en commun. Et je pense que notamment les gens très habitués des manifestations, syndiqués, engagés dans des mouvements d'extrême gauche, qui ont rejoint plutôt pour moi courant janvier le mouvement, ont cru dans ce mouvement en se disant justement ce qui fait la différence par rapport à d'autres mouvements, c'est que pour la première fois nous parlons avec des gens avec qui nous ne parlions pas, et ce moment-là ils ont essayé de le faire durer le plus longtemps possible, de se dire... Pendant combien de temps pouvons-nous parler avec des gens avec qui nous sommes d'accord sur beaucoup de choses, mais pas sur des choses très importantes? Pendant combien de temps pouvons-nous cheminer ensemble comme ça? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on fait la révolution, qu'on change le monde finalement?
Magali Della Souda.
Oui, ce que vous dites est très juste, et moi je citerai juste une petite anecdote qu'on avait recueillie au début du mouvement, de ce militant syndicaliste et de gauche qui disait « moi je manifeste depuis 40 ans et j'avais toujours le drapeau rouge et avec les gilets jaunes, je laisse le drapeau rouge dans le sac à dos ». Et ce qui était intéressant et ce qu'on voyait bien dans les questionnaires, c'est qu'est-ce qu'on a envie de partager et qu'est-ce qu'on a envie de laisser dans le sac à dos comme condition de possibilité de cette rencontre, hein, voilà, avec des opinions très diverses. Ils sont très lucides, ceux qui étaient militants auparavant, sur la coexistence avec des gens qui sont susceptibles ou intéressés par le Rassemblement National. La question du racisme, elle est justement évacuée souvent des discussions. On parle pas d'immigration, et ça on l'a vu dans le questionnaire, on veut pas diviser. Mais le pari est combien de temps on va pouvoir tenir, puisque les moments d'élection sont des moments aussi d'objectivation de ces conflits-là.
Et est-ce que justement, alors la perte de vitesse de ce mouvement, elle n'est pas liée aussi à ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la difficulté de tenir sur le long terme avec des dénominateurs communs qui finissent peut-être par s'amenuiser. Magali Della Souda et ensuite... Olivier Feigl.
Moi, je crois plus là-dessus à l'épuisement d'un certain mode d'action sans mesures très concrètes pour améliorer le quotidien. La répression, c'est quelque chose qui a eu des effets assez délétères sur le mouvement.
La violence aussi de certains manifestants, sans doute, non, qui a pu aussi peut-être dissuader certains d'aller, d'aller manifester, parce que la violence, elle n'était pas que du côté des forces de l'ordre et de la justice.
C'est certain qu'il y a, moi, il y a des gens qui m'ont dit j'ai quitté parce que je ne me retrouvais pas dans ce mode de
oui.
manifestation.
Les Black Blocs divisent, typiquement, mais les Black Blocs, ils ne sont pas partout en région. Donc, la violence dont on parle, il faut quand même le dire, c'est la violence policière. C'est celle-là qui fait le plus peur. Et puis voilà, des désaccords aussi sur les modes d'action envisagés pour la suite. Tout le monde n'a pas envie de créer une association, tout le monde n'est pas forcément concerné. Je reviens à la Gironde et au périurbain, mais par le grand potager ou ce genre de choses. C'est plus l'épuisement de 7 mois de manifestation. Il faut garder les enfants, il faut s'organiser. C'est pas simple du tout.
Sur la question des dénominateurs communs, Olivier Filleul.
Alors juste moi, ce qui m'a frappé, c'est alors on sait tous, on l'a lu beaucoup, et c'est vrai que dès le départ, le mouvement a pu faire du commun en laissant de côté tout ce qui pouvait fâcher. Ok. Ce que je voulais juste te dire que ce que j'ai observé au moment des élections, enfin au moment des résultats des élections dans les groupes Facebook, hein, sur les échanges, mais aussi dans les échanges WhatsApp sur différents groupes auxquels je participe, c'est plusieurs choses qui ont sans doute contribué un petit peu à c'était une pilule un peu amère. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs choses qui s'entremêlent. La première chose, c'est que beaucoup de gens, très naïvement, et ça prouve bien cette difficulté à penser politiquement les règles du jeu, beaucoup de gens ont été très déçus. Parce que beaucoup de gens pensaient, étaient convaincus, et c'était une déception vraiment, ça faisait peine à voir, ont été déçus de cette défaite. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés qu'Emmanuel Macron se prendrait un score misérable. Bon, alors qu'il était il était évident que ça ne serait pas le cas pour l'état de raison, mais voilà, encore fallait-il pouvoir le penser. Donc ça, c'est une première chose. Une autre chose, c'est que dès le lendemain des élections, étant donné le score du Front National et le score de la France Insoumise, pour aller vite, eh bien, beaucoup de gens se sont découverts. C'est-à-dire que des gens qui, jusqu'à présent, n'exprimaient pas ni leur joie, ni leur insatisfaction face aux événements politiques, et notamment au positionnement politique, l'ont fait. Donc des gens se sont félicités du score du Front National, se sont félicités ou se sont plaints du score de la France Insoumise, et du coup, il y a eu des formes comme ça de révélations qui ont suscité un petit peu des conflits, des rancœurs et des formes de séparation aussi. Donc ça, je pense que le résultat et les commentaires des résultats des élections européennes au lendemain des élections a joué, sans doute pas aussi fortement bien entendu que la répression, etc., mais a joué dans le délitement du commun qui s'était construit et qui évidemment était fragile, mais qui persévère d'une certaine manière.
Aline Leclerc.
Mais je pense que ça a joué, y compris dans le découragement. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté exactement à la même stupéfaction. Les gens disant, mais qui vote encore Emmanuel Macron? Ouais. Donc je pense qu'ils ont pris conscience de la bulle, hein, finalement, on est chacun. Donc ils ont pris conscience du fait qu'autour d'eux, en effet, ils avaient l'impression que le mouvement est resté extrêmement populaire et donc s'attendaient vraiment à une vague anti-Macron. Et d'une certaine façon, là, ça a posé un meilleur qu'un sondage. Hein, l'élection a posé quand même ce constat que, bah non, il n'y avait pas quand même une majorité de Français, une très large majorité de Français qui pensaient qu'il fallait renverser le régime, quoi, et qui étaient contre Emmanuel Macron. Et ça, je pense qu'en effet, ça a participé à un certain découragement. Oui. Ce qui n'empêche pas que les gens, comme le dit Magali de la Souda, essayent d'inventer des nouveaux modes de mobilisation. Il y a quand même des fraternités locales qui se sont créées, hein, donc des gens se sont rencontrés, se sont construits quand même dans une forte adversité. Donc je pense que ça a fait des liens quand même assez solides. Et c'est vrai qu'on peut penser, dans leur volonté quand même de prendre part à la vie de la société, c'est-à-dire de faire de la politique de cette façon-là, qui soit pas forcément une politique partisane, mais comment on agit et comment on fait mieux dans la société, il y a quand même, à mon avis, des choses qui vont sortir. Et je pense notamment qu'ils vont prendre une bonne part dans l'action pour signer la pétition pour le référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris, qui est quand même un combat qu'ils ont mené et dans les choses, à mon avis, qui faut mettre à leur crédit, je ne suis pas sûre que les députés auraient osé saisir cet outil-là sans cette mobilisation des Gilets jaunes, en vérité.
Alors justement, est-ce que parmi les Gilets jaunes que vous voyez, que vous croisez, Magali de la Souda et Olivier Filleul, il y en a qui considèrent quand même que leur combat n'a pas été vain, qu'ils ont obtenu des choses, soit du point de vue des mesures prises par le gouvernement, mesures financières, soit la question du grand débat, soit justement le fait peut-être qu'il y ait eu une participation plus importante que prévue aux européennes, ou bien justement alors cette revendication du RIC. Alors il n'y a pas le RIC, mais il y a le RIP, référendum d'initiative partagée déclenché pour la première fois. On verra bien si la procédure va jusqu'au bout. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a quand même, pour certains, l'idée de dire ça n'a pas servi à rien, disons, cette mobilisation?
Oui, alors je suis très prudente parce que là, on rentre dans le qualitatif et on est tributaire de qui nous répond.
Bien sûr.
Et l'évoque spontanément, puisque nous, on a une démarche très, très inductive. Hein. Les questions sont ouvertes dans le questionnaire, bref. Mais effectivement, la question du RIP, donc du référendum d'initiative populaire, ça a été quelque chose où il y a effectivement des gilets jaunes qui vont s'investir et qui s'investissent pour recueillir les signatures. Et ça, il faut le mettre quand même à leur crédit. Et puis il y a autre chose dont je voulais parler, qui est une spécificité de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement aussi où il y a une forte présence des personnes concernées par le handicap, soit elles-mêmes, soit leurs aidants. Et dans les formes d'action et les changements, ben, il y a typiquement organiser des permanences, organiser des services d'aide pour les personnes qui sont dans ces situations-là. Et ça a reposé dans des formes qui ont fait éclater les cadres habituels de la représentation des personnes handicapées, cette question-là de qui peut vivre de son travail et comment on vit dignement. Quand on est considéré comme ne pouvant plus travailler.
Est-ce qu'on pourrait dire d'ailleurs que la vulnérabilité, ça fait partie justement peut-être des, comment dire, des thèmes ou des critères qui ont pu rassembler pendant assez longtemps les Gilets jaunes, Olivier Filleul?
Alors, merci de poser cette question, parce que pour moi, mais à ce stade, donc, Samar, c'est une hypothèse, en faisant des calendriers de vie, c'est-à-dire en essayant de reconstruire le parcours de vie des individus depuis leur prime enfance jusqu'au moment où on les interroge, ce qui me semble voir apparaître sur un nombre encore limité de calendriers de vie, c'est une chose très frappante, c'est qu'il y a quelque chose de commun, qui est l'expérience de la vulnérabilité. Et donc, quand on regarde aujourd'hui de manière photographique où se positionnent les gens, quelles sont les conditions de vie des personnes, on peut avoir le sentiment d'une grande diversité. Il y a des petits entrepreneurs, etc. Mais en réalité, vraiment dans une immense majorité, c'est-à-dire quasiment la totalité de mes enquêtés, pour l'instant, sont des gens qui, à un moment de leur vie, ont connu une période de vulnérabilité économique, hein, essentiellement. Et non seulement une période de vulnérabilité économique, mais aussi ont éprouvé, à tort ou à raison, mais c'est leur ressenti, le sentiment que l'État n'avait pas pris en charge cette vulnérabilité, qu'ils avaient été abandonnés au bord de la route. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans les consciences des personnes que j'ai vues. Et même si c'est l'expérience vieille de 20 ou 30 ans, c'est pour moi visiblement ce qui fait le commun de toutes ces personnes. Et à cela, j'ajoute juste une petite note de bas de page, à cela s'ajoute aussi, pour tous ceux qui ont des enfants, quelque chose de très important, c'est aussi la projection dans l'avenir de leur... Enfin, pardon, la manière dont ils estiment que l'avenir de leurs enfants est déjà cassé. Pour beaucoup, il y a aussi cette idée donc de la vulnérabilité à venir, qu'on prévoit. Et ça, c'est ça qui fait un commun tellement fort, à mon avis, que le mouvement est loin d'être terminé, parce que ça va rester. Est-ce que je peux ajouter un...
Allez-y. Alors, une deuxième note de bas de page, c'est ça?
Non, alors, c'est un vrai paragraphe. Non, mais très rapidement. Il y a quelque chose sur la question de savoir est-ce que le mouvement se délite ou pas, enfin, qu'est-ce qui va en rester? Moi, il me semble que une chose qui s'est passée dans ce mouvement, c'est que il y a eu une libération de la parole, comme on l'a beaucoup dit sur 68, pas sur le même mode. Une libération de la parole sur le mode du groupe de conscience féministe, si vous voulez. C'est-à-dire, en gros, des gens qui ont une expérience commune et qui ont de sa manière honte de cette expérience et qui vont se retrouver ensemble et vont l'exprimer. Une chose fascinante sur le mouvement des Gilets jaunes, qui est très rare dans les mouvements sociaux, vraiment très rare, c'est que beaucoup de gens sont allés sur les ronds-points, sont allés aux manifestations, seuls. Généralement, on ne se rend pas dans une mobilisation seule. On y va en groupe, en famille, avec des amis. On n'y va jamais seul. Là, ils ont poussé la porte tout seul. Et donc, ça, c'est un premier point, et je termine là-dessus. Un autre point, c'est que, à mon avis, il y a quelque chose qui s'est développé de très fort et qui va pas disparaître du jour au lendemain. C'est ce qu'on peut appeler, même si ça peut paraître fort, une mentalité révolutionnaire. C'est-à-dire le sentiment d'une légitimité à protester, d'une légitimité à refuser. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la gestion du maintien de l'ordre était aussi difficile, c'est que même face à des interdictions, disons, légitimes, vous pouvez pas passer par là, on a négocié l'itinéraire, etc., il y avait vraiment ce sentiment que non, ça nous appartient. Le ministère Griveaux nous appartient, on peut y rentrer. La préfecture nous appartient, on peut y rentrer. On est chez nous. Et ça, c'est vraiment le signe d'une mentalité révolutionnaire qui, généralement, enfin dans l'histoire, ne s'efface pas avant une ou deux générations.
Ce que vous avez pu du coup observer dans le département du Var, vous le retrouvez vous aussi, Magali Della Souda, dans le périurbain en Gironde?
Oui, et pas seulement dans le périurbain, je rejoins complètement ce qui est dit, puisque ça on l'a mesuré dans les questionnaires, comment êtes-vous venu, oui, des personnes seules. Ça c'est un fait inédit, et effectivement le rapprochement d'ailleurs qu'on fait dans le groupe hein, sur la manière dont aussi le mouvement tient, parce qu'on partage ensemble notre expérience, et on pleure ensemble sur les ronds-points, et on mange ensemble, et voilà, ces choses-là que la sociologie des mouvements féministes a bien montré, on le retrouve là, et c'est assez fort. Et la vulnérabilité, je souscris complètement à cette analyse, et j'ajouterai en plus que pour les indépendants, le RSI finançant de manière très, très mal les accidents de la vie.
Je rappelle le RSI, le régime social des indépendants.
Voilà, des indépendants, c'est un motif de mécontentement très fort, et qui fait que un accident du travail va vite se traduire par un accident de la vie qui va toucher toutes les sphères de la vie de la personne, économique, familiale et autres.
Ils ne sont plus donc très nombreux à manifester aujourd'hui. Les chiffres officiels, donc je le rappelle, c'était 7000 samedi. 7000, ça reste quand même un chiffre impressionnant malgré tout, même si c'est faible au regard de la durée de ce mouvement, Aline Leclerc. Est-ce qu'on sait, enfin, ces irréductibles, on peut les appeler comme ça, que vous rencontrez, est-ce qu'ils vous expliquent pourquoi ils continuent de manifester? C'est-à-dire, est-ce qu'ils attendent quelque chose? Est-ce qu'ils attendent des réponses concrètes? Ou c'est parce que, peut-être parce que c'est difficile aussi de sortir un mouvement comme ça, parce que se sont créées ces solidarités qu'on a évoquées pendant l'émission?
Je pense déjà que c'est difficile, mais d'autant plus parce qu'ils pensent qu'ils sont dans leur, qu'ils ont raison. C'est-à-dire que eux, ils manifestent pour un idéal, et d'ailleurs un idéal sur lequel je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver, c'est-à-dire ils demandent plus de justice fiscale. Je veux dire, nous, Le Monde, on publie régulièrement des articles qui parlent de la croissance des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Ils disent le modèle démocratique est à bout de souffle. Quand on voit qu'on a réussi à se réjouir du fait qu'il y ait 51% de participation aux dernières élections européennes, et on a parlé de niveau très élevé de participation, moi je pense que nous-mêmes on peut acter le fait qu'ils pointent un certain nombre de choses sur lesquelles on est d'accord. Alors après, peut-être ils le pointent mal, ou ils le pointent d'une façon c'est vrai que ils ont pas déclaré, etc. Il y a plein de choses, mais eux restent persuadés qu'ils ont raison. Et d'ailleurs, moi, j'ai été faire un reportage à Dreux sur les questions de l'abstention, donc qui n'était pas sur les gilets jaunes. Et ce qui m'a marqué, c'est que j'ai rencontré énormément de gens qui n'allaient pas voter, qui n'étaient pas gilets jaunes, parce que qui me disaient « je trouve que c'est trop violent » ou « ça ne va pas assez loin », etc. Mais ce que je voyais, c'était que c'était un signe pour eux qu'on n'ait pas écouté, qu'ils aient l'impression que les gilets jaunes n'aient pas été écoutés. Ils étaient quand même en communauté de valeurs avec eux. Et ils disaient, regardez, alors quand on vote, on nous entend pas. Et puis maintenant, même quand on se révolte, on nous entend pas. Et ça, moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai que finalement, les gilets jaunes sont une partie avancée. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient assis chez eux, pensaient qu'ils n'avaient pas leur destin en main. Ils se sont mis en mouvement. Donc voilà, moi, je pense qu'on est dans une tectonique des plaques dont on ne sait pas trop où ça va nous venir. Mais je pense que c'est intéressant. Il y a eu une mise en mouvement d'une partie de la société, et ils savent que derrière eux, il y a toute une part de la société qui ne s'est pas mise en mouvement, mais qui les rejoint sur le fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus le sens du vote, et sur le fait qu'il y a des inégalités de plus en plus fortes, et que les riches sont de plus en plus riches, et que les pauvres sont de plus en plus pauvres.
Petite question, peut-être un peu plus personnelle pour terminer, Magali Della Souda et Olivier Filleul, alors brièvement, mais qu'est-ce que ça a changé, ce mouvement, pour vous, dans votre compréhension et dans votre approche des questions sociales, puisque vous êtes l'un et l'autre sociologue, Magali Della Souda? Est-ce que ça a remis en cause une façon de travailler?
Oui. Alors, personnellement, moi, ça m'a apporté beaucoup parce que moi, je ne suis pas une grande quantitativiste. Et donc, j'ai appris à travailler avec mes deux collègues, Camille Bédoc et Tinette Schnatterer, à partir des questionnaires. Donc, pour moi, ça a été de la découverte de nouvelles méthodes. Voilà, essayer de trouver des protocoles d'enquête qui répondent à ce mouvement inhabituel dans un certain nombre de ses formes, et donc voilà, croiser avec des choses qu'on connaissait mieux, l'observation, les entretiens.
Et pour vous, Olivier Filleul?
Alors, pour moi, deux choses peut-être très rapidement. La première, ça m'a conforté dans l'idée que on devait s'interdire toujours de faire la moindre prédiction, parce que, et il faut le dire, il n'y a pas un sociologue, pas un politiste, personne n'a pu prévoir ce mouvement, ni même le comprendre au début, ni même au début, lorsqu'il a démarré, prévoir dans quel sens il irait. Donc ça, c'est une première leçon d'humilité totale. Il faut la méditer. La seconde chose qui m'a un peu troublé, qui continue à me troubler, c'est que ce mouvement, en fait, fait partie de ces mouvements qu'on appelle sans leader, et il ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à Jay-Z Park, qui ressemble beaucoup, même si c'est très lointain et très différent, mais il ressemble beaucoup dans
ces... Jay-Z Park, c'est Istanbul, en Turquie.
Istanbul, donc voilà. Mais aussi Zuccotti Park, enfin, donc le mouvement Occupy. Bref, il y a tout un ensemble de mouvements qui sont apparus, les révolutions dans le monde arabe. Tout ça n'a rien à voir, sauf que tout ça, c'est des mouvements sans leader qui démarrent sur Internet, etc., etc. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'en France, il y ait quelque chose de cette nature. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi à méditer, parce que c'est sans doute pas le dernier de ces mouvements.
Voilà, on se gardera bien, en tout cas, de faire des prédictions sur ce que pourra devenir ce mouvement. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Magali de la Souda, Aline Leclerc et Olivier Filleul. Émission que vous pourrez retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain. Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre Legras, avec à la prise de son Swad Boukorsa. Dans 3 minutes, ce sera du théâtre dans la dispute, Arnaud Laporte.
On ne peut rien vous cacher. Et demain, 18h20, dans du Grain à Moudre.
Une émission consacrée au gaspillage. Qu'est-ce que ça veut dire, le gaspillage ?
J'attends le titre, mais bon. J'attendrai demain pour la voir.
Attends un petit peu encore.
Le téléphone sonne, c'est qu'il doit être 19h, j'imagine. On va retrouver, nous, Aurélie Kiefer pour les titres de l'actualité.